son varie avec, avec l'angle de l'objectif. Vous voyez comment ça fonctionne, hein? C'est plus on approche et plus le son se rapproche et est moins distant. Enfin, c'est intéressant comme idée. Moi, je ne sais pas en pratique. Peut-être on visionnera un petit peu ça tout à l'heure. On verra si le diaph était bon, si.
Oui, les amours des deux personnages de Je meurs de vie sont des amours enfin, interdits. C'est un amour interdit de fait, puisque leur vœu est ailleurs.
Oui, leur vœu est ailleurs. Mais comme il y a, je crois qu'on passe notre temps, du moins moi je le ressens comme ça, à toute une série de transgressions. L'image n'est-elle pas une transgression, la représentation est en soi une transgression. Il y a une adéquation entre la transgression du sujet du film et la transgression de l'acte du film, de l'acte de filmer. Alors peut-être est-elle, cette transgression est-elle plus consciente chez les uns plutôt que chez les autres? Cette transgression peut avoir à l'origine le religieux déjà, enfin... c'est-à-dire, bon, je ne sais pas, dans l'islam, bon, il y a la transgression de la représentation, même dans le judaïsme, on ne représente pas. Mais je crois que, comme nous vivons dans une civilisation judéo-chrétienne, je crois que cette transgression est passée dans, inconsciemment, dans d'autres religions, quoi, dans... Enfin, chez l'homme en général, qui est imprégné de religion, même s'il n'est pas spécifiquement religieux, pratiquant, ou choses comme ça. À mon sens, cette histoire, qui est très bien reçue par relativement peu de gens qui ont pu voir cette histoire n'est pas du tout reçue comme une histoire spécifiquement religieuse. Hein. Je crois que cette histoire de deux religieux raconte l'histoire de possible de tout un chacun. Hein, c'est...
Moi, ce que j'ai trouvé à la fois pas mystérieux ou fascinant, mais d'une haute, je dirais, teneur poétique, c'est ce quotidien dans les gestes qui devient absolument sacré. C'est-à-dire qu'il y a tout d'un coup, alors le pétrissage de la pâte, le travail du relieur. C'est-à-dire dans des gestes du banal, du quotidien, il y a le sacré. Et c'est assez drôle, en fin de compte, l'effet produit. C'est à la fois poétique et drôle.
Oui, il y a ces distanciations, il y a cet humour un petit peu dont on a parlé tout à l'heure. Mais c'est peut-être parce que nous ne savons plus, nous avons désappris ce que le quotidien contient de sacré. Chaque acte, chaque fraction, que, je ne sais pas comment exprimer ça, d'acte, chaque détail de l'acte, n'importe quel de nos actes, est un acte sacré. Mais ça, nous en avons perdu le sens, plus ou moins perdu le sens. Moi, c'est ce que je tente de retrouver à travers mes films. Bon, pour moi, je crois qu'on ne saurait filmer sans... C'est pas du tout prétentieux ce que je veux dire, c'est pas du tout un privilège qui n'appartiendrait qu'à moi. Mais je crois qu'à travers une caméra, à travers, quand on filme, du fait qu'on a décidé de faire des films, il faut conserver un regard d'amour sur les gens, ce que la plupart du temps on a perdu aussi. On ne peut pas regarder, mais ça je crois que j'ai déjà dit, on ne peut pas regarder un personnage comme un objet. Or, la plupart du cinéma regarde un être humain, un sujet comme un objet, Et c'est plus normal, ça paraît. C'est étrange parce que c'est cette façon de regarder qui paraît aujourd'hui exceptionnelle, alors que ça devrait être la démarche la plus constante, la plus courante du cinéaste, ce regard-là. C'est en ça que je refuse le cinéma en général et je refuse beaucoup de films. Mais je le fais avec à regret. Enfin, je n'ai pas envie de ne pas regarder d'autres films, mais je crois qu'il y a un malentendu ou un mal-voir dans le cinéma actuel, dans le cinéma d'aujourd'hui. Et que, à l'origine, même dans une espèce d'inconscience, dans une espèce de spontanéité, de pureté, de... Je sais pas, bon, il y aurait plein de mots à employer, mais ce n'est pas des mots de la morale, enfin. Mais je crois qu'il y a eu au départ ce regard, et qu'il s'est perdu. Il s'est perdu... À l'aube du cinéma, oui, on a eu ce regard. Et puis, des gougnafiers se sont emparés du cinéma et en ont fait ce qu'il est aujourd'hui.
C'est pourtant des démarches qui sont... Enfin, moi, de ce que j'ai vu, donc des films que j'ai vus, qui sont quand même diverses. Même si l'autre jour vous parliez au moment de la projection de Monomanie, il semble quand même que passer du premier de ce film dont on vient de parler brièvement, Je meurs de vivre, à Un arbre fou d'oiseau, c'est une démarche un petit peu différente, parce que le deuxième, elle a plongé quand même dans quelque chose d'intime, qui est à mon avis un très beau portrait de femme, faisant un travail de deuil. Mais peut-être le fait que vous soyez un homme explique-t-il cela.
Non, de toute façon, je voudrais revenir. Il y a eu un malentendu sur... j'ai dit, il va sembler à ceux qui étaient à la première séance que j'aurais un propos monomaniaque, parce que je vais redire pour ceux qui arrivent le même propos, c'est-à-dire que ces films que l'on voit ce matin, aujourd'hui... sont des films qui sont dans le droit fil d'une démarche que j'ai entreprise il y a 40 ans. C'est ça pour moi qui était monomaniaque, attention. Je ne dis pas que mon propos autour de mes films, dans mes films, est monomaniaque. Par ailleurs, enfin je ne sais pas. Non, mais par ailleurs, il l'est peut-être. Je veux dire, non, mais j'ai souvent parlé à travers une femme, à travers le personnage d'une femme... je sais pas, on a pu me dire à propos d'Un arbre fou d'oiseau de par ce que je suis, de par la manière dont je fonctionne, enfin je sais pas si je saurais bien le redire ce qu'on m'a dit, mais que j'étais à même de capter une sensibilité féminine et de parler, et que c'est un film qui pouvait être compris, qui a été davantage compris des femmes. Je ne sais pas, bon, c'est ce qui m'a été dit par plusieurs personnes.
Ce qui est un peu étonnant, ça c'est le privilège, je dirais, de l'artiste, mais c'est cette capacité de... Parce que c'est toujours un peu une projection quand on crée un personnage de femme et qu'on est homme, dans l'intime d'une femme qui fait un travail de deuil sur le décès d'un homme qu'elle a aimé. Et donc, je dirais, là, il y a quelque chose un peu du travestisme au sens où, du drôle fait dans la religieuse presque, qui est un ouvrage que je trouve fabuleux, parce que c'est l'homme qui descend complètement dans la profondeur de la femme, et c'est assez étonnant, cette sensibilité, cette capacité-là. Alors, donc moi, j'aimerais qu'on revienne peut-être justement sur le travail de médiation, c'est-à-dire vous, Marcel Hanoun, par rapport à ce personnage qui fait ce travail de deuil, et donc c'est une fiction, comment vous avez conçu cela? Comment l'idée vous en est venue?
Je crois que, de toute façon... cette médiation existe forcément dans tout vrai travail de création. Hein, c'est, la création, c'est peut-être un acte essentiellement féminin. Et oui, enfin bon, on pourrait. Oui, mais ça, je ne suis pas responsable de cette exclusion, et peut-être c'est les remettre dans mes films à leur vraie place, justement. Peut-être, dans le fond, ça me fait découvrir en même temps que peut-être ce personnage, bon, fictif, ce personnage de fiction, et serait encore plus créateur que je ne le suis moi-même à faire le film. Bon, je ne sais pas, c'est comme une boutade de dire ça comme ça. Hein. Non, non, mais bon. Mais je ne sais pas, parce que je cherche moi-même. Toute question pour moi est en même temps un questionnement. Ce n'est pas une simple question, ce n'est pas un jeu de questions-réponses. Toute bonne et vraie question doit amener un questionnement pour soi-même. Hein, c'est...
Il ne peut pas y avoir de réponse. Le hasard et l'intuition existent aussi, surtout en art.
Oui, il y a sans doute aussi. Il y a sans doute aussi une grande part d'intuition. Alors, est-ce qu'il est possible de nos jours de dire à un producteur « je fonctionne sur l'intuition », de lui donner une ligne à lire et de lui dire « écoutez, faites-moi confiance, faites confiance à mon intuition ». Je crois que c'est tout le problème de la création aujourd'hui. Hein, c'est de la création cinématographique en tout cas, parce qu'un peintre, un écrivain peut continuer de fonctionner à l'intuition, mais il faut hélas, par rapport au cinéma, que la chose soit écrite d'abord et remise en forme et en conformité, voilà. Il y a une conformité aujourd'hui dans la production cinématographique entre la création et la production. Hein, une conformité qui ne devrait pas être. Hein, je sais pas. Bon, il y a tant à dire que ça se bouscule et que ça se bloque et que je sais pas. Faudrait peut-être relancer. Ce questionnement d'une autre manière.
Ce qu'il y a, c'est que là, il me semble que c'est plutôt des normes standards qui sont en œuvre aujourd'hui dans le cinéma. Je ne sais pas si on peut appeler ça dans le cinéma, dans la production. Et vous, ce que j'ai vu de vos films, hein, c'est une démarche quand même qui est, je dirais, de confrontation à la confluence poétique et à la fois des choses qui ont à voir avec, je pense, au dispositif théâtral, par exemple dans l'authentique procès de Carl Emmanuel Jung. Il y a des confrontations avec la poésie, me semble-t-il, y compris dans la manière dont vous écrivez les textes et ce que les personnages ont à dire, y compris dans les références à Louise Labbé ou autres. Enfin, il y a des choses comme ça qui reviennent, qui sont des réminiscences fortes. Et puis, il y a un univers plastique qui me semble est très marqué quand même par l'œil du peintre. Donc il y a à la fois la conjonction de tout ça. Et le cinéma aujourd'hui, il est standardisé, pas forcément dans cette démarche de confrontation comme ça, entre plusieurs actes de création. Et votre cinéma, me semble-t-il, il s'intéresse à ça, à confronter ce type de, je dirais, de collage, pas au sens péjoratif, mais de ce qui peut relever du théâtre, de la poésie, de l'image.
À vrai dire, je ne sais pas trop quoi répondre, parce que vous avez tout dit dans votre question. Non, moi, ce qui me frappe, en tout cas, je parlerai moins de mon cinéma que de l'autre cinéma. Comme du point de vue de l'autre cinéma, on pourrait parler du cinéma et parler de l'autre à propos du mien, quoi. Il y a cette fausse altérité qui pour moi, en tout cas, est au détriment de l'autre cinéma qui se pratique couramment, qui se pratique tous les jours, qui se pratique à travers des productions fortunées, riches, à travers des moyens. Je crois que les moyens tuent peuvent tuer tous les paramètres que vous avez énoncés. Il y a une antinomie totale entre des moyens grands et l'expression que l'on... Enfin, ces moyens tuent l'expression, tuent la création. Et ça devient autre chose. Ça devient quelque chose de... comme de gratuit, de vain, de vaniteux, de faux, sans que forcément le faux apparaisse tout de suite et apparaisse aux yeux du spectateur, qui prend ce faux pour du vrai, disons, schématiquement, alors que le vrai se trouve ailleurs, se trouve dans les purs, dans le plus simple. Et c'est encore ce paradoxe, c'est en allant vers le plus simple de découvrir vraiment le tout. Hein. C'est effectivement paradoxal, enfin, de découvrir le plus de choses, le maximum de choses, à travers la concentration des moyens, à travers la condensation des moyens, à travers la contingence des moyens, à travers la restriction des moyens, à travers des mots qui apparaissent comme en eux-mêmes comme restrictifs, comme négatifs, alors que c'est tout le contraire. Je crois que l'approche la plus juste, et se fait dans la simplicité, l'approche la plus juste d'un sujet, hein, se fait dans le dépouillement et la simplicité. Bon, je sais pas si j'ai...